Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Ben.
Bonjour à tous.
Et d'Atiash.
Et salut à tous.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de The Banner Saga 2 qui a été retardé. On enchaînera ensuite sur la BlizzCon où Blizzard a parlé de Overwatch. Nous parlerons également de Wild, le nouveau jeu de Michel Ancel qui a été présenté durant la conférence de presse Sony, qui était une sorte de prélude au salon dont nous ne dirons pas le nom. nous évoquerons aussi One Life, une petite perle que nous a trouvée à TH. Vous verrez ça tout à l'heure. Et enfin, pour terminer, il y aura mon coup de gueule de la semaine. Un coup de gueule qui concerne le Kickstarter d'un jeu qui s'appelle Dark Flame. Sans oublier notre jeu du moment, je vais enfin pouvoir vous en parler. Il s'agit d'Undertale, un RPG assez spécial. Voilà, voilà. On commence donc avec The Banner Saga 2 qui a été retardé au premier trimestre 2016. Alors fondamentalement sur cette news, on n'a pas grand chose à en dire. On en parle surtout en fait pour évoquer ce début d'année parce que moi je sais pas ce que vous en pensez messieurs, mais je me dis ouais les gars, mais c'est un peu casse-gueule votre truc là, parce que le début d'année c'est plus la période bénie que ça pouvait être à une époque. C'est-à-dire que mis à part si tu sors ton jeu en janvier, dès février ça enchaîne quoi.
Ouais, février, il y a déjà beaucoup de gros jeux qui arrivent. Il y a Deus Ex, Far Cry qui arrive aussi. Même mois de mars aussi, c'est un mois assez chargé avec The Division, Hitman, Uncharted 4. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de blockbusters qui sortent et puis même il y a quelques indés qui traînent par-ci par-là.
Plus le fait que on a des jeux dont on ne connaît pas encore la date de sortie, genre Star Fox Zero qui doit sortir là aussi dans ces eaux-là, la nouvelle extension de The Witcher 3 qui doit aussi sortir dans ces eaux-là. Bref, c'est vraiment la merde quoi.
Parce que en fait, pourquoi ils sortent les jeux ils essaient de sortir les jeux avant le 31 mars, c'est parce que c'est la fin d'une année fiscale. Et donc, ce qu'ils souhaitent faire, c'est justement augmenter les chiffres pour qu'ils soient dans le vert.
Là aussi, c'est avantageux, c'est que si tu le sors en mars, tu as pour ta fin d'année, mais aussi pour le début de l'année fiscale suivante.
Voilà, c'est ça.
C'est tout bénef. Tu étales sur ces deux périodes-là. Donc, tous les éditeurs s'y mettent. Après Noël, c'est la grande charcuterie, quoi.
Le mois de mars, c'est devenu un peu le deuxième Noël, quoi.
Bah, le problème, c'est ça. C'est que, à l'époque, on en a quelques-uns qui le faisaient. Maintenant, ils se mettent à un peu tous le faire. Et du coup, bah, c'est risqué. Alors après, quand t'es une grosse licence, comme Witcher l'avait fait l'année dernière, pour eux, ils étaient sortis en mars. C'était tranquille parce que, voilà, tout le monde l'attendait. Mais pour des jeux qui sont un peu moins attendus, ça peut être compliqué parce qu'ils se retrouvent au milieu de AAA et d'autres jeux. Du coup, c'est quoi, ça peut être compliqué pour eux, quoi.
Et qui ont été reportés justement parce qu'ils pouvaient pas faire face à Noël,
voilà,
et qu'ils étaient pas du tout attendus. Mais du coup, enfin,
ils se retrouvent un peu dans la même situation, mais en mars.
Ils se mordent la queue, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que il y a tellement de jeux que de plus en plus, j'ai l'impression qu'on ne va plus avoir de période de grâce un peu comme ça, où des petits jeux pourront sortir, et ça va être de plus en plus compliqué, quoi.
Et ce qui est paradoxal, c'est que le mois de décembre, bah finalement, il y a pas beaucoup de gros jeux qui sortent, parce que tous les jeux sont sortis au mois d'octobre, novembre en fait, et ils savent très bien que ces jeux-là, c'est des jeux qui vont vendus pendant les périodes de fêtes et de Noël. Mais le mois de décembre, c'est vraiment un mois qui est quand même assez vide si tu regardes par rapport au reste de l'année.
Oui, mais pourquoi il est assez vide aussi? Parce que les achats de Noël se font bien avant décembre.
Oui, ce que j'allais dire, là, on voit rien que ce mois-ci, il y a Fallout qui va sortir, il y a Star Wars Battlefront qui sort. Donc les gros jeux, il y a Assassin's Creed qui est sorti, je pense, fin octobre, il a dû sortir. Donc c'est vrai que les gros jeux sortent plus fin octobre, début novembre que décembre, en fait, ouais.
Mais ça ne change rien au fait, si tu veux, que du coup, ces jeux, ils continuent à se vendre en décembre, de toute façon, parce que c'est les jeux que tout le monde attend, en fait.
Oui, c'est ça.
Je travaille sur un site de e-commerce. Je sais de quoi je parle parce que on m'a donné une liste top prio de machins intégrés sur le site. Je peux vous dire que voilà, c'est les jeux qu'on connaît tous là. Enfin, et c'est maintenant qu'on les intègre parce que vraiment, ça commence maintenant, là tout de suite, Noël.
Bah oui.
Ouais, c'est pour ça qu'en fait eux, bah ils attirent tellement l'attention sur eux en fait, en termes de communication et même en termes d'options d'achat pour les joueurs qui sont grand public, que même une grosse licence qui est déjà bien intégrée dans le jeu vidéo que nous tous connaissons ici, par exemple Hitman ou même Deus Ex, bah au mois de décembre ils arrivent devant ces jeux-là, ils font pas le poids, même tu lances une grosse licence comme ça. C'est sûr que ouais, ils prennent tellement l'attention sur eux que bah malheureusement n'importe quel autre jeu qui est un peu moins connu pour le grand public en tout cas, ça fait pas l'affaire, quoi.
En plus, t'as tous les jeux, tu sais, qui nous ne nous intéressent pas du tout, mais qui se vendent vachement, genre les Lego, tu vois. Ouais. C'est la folie.
Ah, les Lego, c'est impressionnant. Les chiffres, si tu rassembles tous les jeux Lego ensemble, c'est impressionnant, ouais.
Et du coup, on se dit que finalement, aux indés, il reste quoi ? Enfin, il reste le mois de janvier. Après, t'as la période de vachement creuse où là, ils sont bouffés, quoi.
Là, bah, sinon, il reste l'été, quoi. Mais l'été, les gens sont en vacances.
L'été, c'est compliqué, ouais.
Après, oui, c'est compliqué, mais enfin, à un moment donné, je veux dire, tu peux pas t'imposer aux périodes de forte audience.
Non,
parce que
sûr.
Même le mec qui achète des jeux indés, on pourrait rétorquer, si tu veux, oui, non, mais de toute façon, c'est pas le même public. Enfin, non, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, par exemple, là, je vais acheter des Oustex au mois de mars, là, ou février.
C'est février, le 23 février qui sort.
Oui, mais ça sera probablement en mars parce que je vais pas l'acheter des ouais non plus. Mais enfin bref, c'est pour dire que je suis consommateur de jeux indépendants. À un moment donné, mon portefeuille est limité aussi. Et même si c'est des jeux qui n'ont rien à voir, si je dois débourser, je sais pas moi, 30 boules pour un jeu qui est long en plus, que je vais mettre du temps à finir, derrière je ne suis pas disponible pour un autre jeu en fait. Bon, après, c'est vrai que je fais partie de ces gens qui ont pris la résolution de ne pas acheter de jeu quand ils sont en train de jouer à un autre, mais après, c'est vrai qu'il y a des gens, si tu veux, ils s'en foutent, et ils achètent. Mais je pense que ça a aussi une influence, quoi, tu vois, c'est-à-dire que même si t'es un fan de jeux indé, s'il y a un gros jeu qui t'intéresse, derrière, t'as plus de place pour ce jeu-là, quoi.
Ah bah oui,
voilà.
Totalement d'accord.
Bon, messieurs, je vous propose qu'on parle maintenant de la BlizzCon, et c'est toi qui vas prendre la parole, Ben, parce qu'on a eu une surprise vis-à-vis d'Overwatch, je crois.
Oui, on va parler de la BlizzCon, mais surtout d'Overwatch, parce que le reste, on va dire qu'à nous, ça ne nous intéresse pas vraiment.
Un film Warcraft qui est ridicule.
Oui, puis une nouvelle extension pour WoW, enfin bon, les choses habituelles au final de la BlizzCon. Non, voilà. Ce qui nous a un peu plus étonnés, c'est Overwatch, qui finalement va être un jeu payant. Donc c'est vrai qu'il avait été présenté surtout comme un Team Fortress-like, et du coup tout le monde pensait à un free-to-play. Mm-hmm. Et donc cette nuit-là, pendant leur annonce, ils ont annoncé ben voilà, que ça allait être un jeu payant sur toutes les plateformes. Alors pour l'instant, il est en précommande à 60€, c'est un pack avec quelques trucs en plus, voilà, un peu de contenu additionnel. Mais plus tard, le jeu sera vendu 40€ à son tarif normal.
J'adore, maintenant le nouveau concept, c'est la précommande, tu payes plus cher. Pour des bonus à la con qui seront disponibles.
C'est vraiment du marketing où ils t'offrent 5 personnages en plus. Enfin, c'est du marketing Blizzard. On sait qu'ils sont très forts là-dedans et qu'ils ont une grosse communauté derrière. Donc c'est vrai qu'ils jouent sur l'affect de leur communauté en disant bah si vous le commandez maintenant, on vous offre voilà des personnages en plus, quelques conneries en plus. Alors que si vous l'achetez plus tard, bah, vous aurez pas tout ça. Donc je pense que.
Alors des personnages en plus. Tu me fais peur là.
Bah c'est des personnages en fait qui reprennent l'univers d'autres licences de Blizzard, des personnages qui sont dans Hearthstone, dans StarCraft.
Ouais, non, mais je comprends
Diablo 3,
bien mais
oui tu sens les DLC en fait, où tu vas pouvoir acheter voilà, tous les petits personnages bien sûr.
T'as
ouais.
Déjà les DLC en précommande quoi, voilà. C'est ça que je veux dire.
Ça peut.
Non là, mais là dans le pack c'est des skins en fait de personnages
que tu as les 5
d'accord,
trucs.
D'accord, OK, d'accord, bon ouais. Ça va, c'est à la limite pourquoi pas.
Oui, c'est du fan service.
Mais par contre ils sont chauds Blizzard là parce que sortir un FPS multi payant à ce tarif là aujourd'hui, en tout cas j'espère qu'ils ont retenu la leçon Evolve, c'est-à-dire qu'il va pas falloir sortir 40 000 DLC derrière hein, parce que les gens ils ont le même jeu en gratuit donc c'est ça le problème.
Et surtout que les premiers retours, enfin moi de ce que j'ai entendu, il y a soit des très bons retours soit des très mauvais, c'est-à-dire que soit les gens adorent soit ils détestent le jeu.
D'accord.
Il y a pas vraiment de juste milieu et on sait que c'est des jeux qui marchent s'il y a du monde sur les serveurs. C'est un jeu, voilà, comme le problème qu'a eu Evolve, qui pour moi était un très bon jeu, mais ils ont fait des grosses conneries. Mais c'était un jeu qui marche s'il y a du monde qui peut y jouer, quoi. Et là, c'est vrai que déjà, en mettant une version payante, un tarif quand même d'un jeu assez cher, parce que 40€, c'est pas un petit jeu à 10 ou 15€ que tu dis, bon, je le prends et j'y joue de temps en temps. 40€, ça commence à être assez cher pour un jeu. Du coup, ils risquent de se couper une partie de leur communauté, ce qui est pas évident. Surtout que, comme tu l'as dit, aujourd'hui il y a Team Fortress, même s'il est vieillissant, c'était un peu le modèle du genre. Voilà, ils essaient de jouer sur l'affect de leur communauté. Mais bon, si ça prend pas, c'est compliqué. Alors qu'ils auraient très bien pu faire un modèle à la Hearthstone, entre guillemets, où t'as un jeu gratuit et où tu peux payer, voilà, pour avoir un peu plus de, pas du contenu, mais bon, pour Hearthstone, c'est des cartes, des packs de cartes, où là, tu aurais pu payer, voilà, la LOL des personnages, etc., quoi.
Après, attention, on ne dit pas que ce n'est pas possible de se faire de l'argent avec un jeu multi. On a la preuve avec Rocket League, on a la preuve avec Warhammer Vermintide qui a très bien marché est sorti. On a la preuve aussi avec Ark. Bon, pour le coup, c'est un autre style de multijoueur, mais
sûr que ça peut marcher. Mais c'est vrai que là, il se lance. En fait, vu que ça a été un peu présenté comme un successeur plus récent à un Team Fortress, c'est vrai que dans la tête de tout le monde, ça allait être un free-to-play en fait. Alors qu'ils avaient au final jamais communiqué sur ça. C'est une surprise.
Donc, bah écoute, moi je leur souhaite de réussir parce que de toute façon, moi je trouve ça bien qu'un jeu multi soit payant. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment du mal avec le modèle free-to-play qui en général est assez dégueulasse. Oui. À quelques exceptions près, hein, genre Dota, où pour le coup c'est vraiment que de la skin, et vraiment que de la skin.
Oui, c'est pas du
pay-to-win. Hearthstone, déjà, pour moi, ça me saoule. J'aime pas du tout le modèle économique d'Hearthstone, même si Mordor n'a pas de souci avec. Moi, enfin, je sais que le concept de on va frustrer le joueur, et puis il va payer pour des cartes derrière, moi j'aime pas. J'ai envie de dire presque bravo Blizzard, quoi. J'espère juste que vous allez pas faire 40 000 DLC derrière, parce que... le concept de j'achète un jeu et je paye plein de DLC derrière pour pouvoir y jouer avec des map packs à la con genre la Call of quoi, tu vois. Ça me saoule mais vraiment quoi.
Ouais.
Bon, après je dis ça mais à mon avis ils vont pas oser. Pourquoi? Parce qu'ils sont en face de Team Fortress quoi. Et Team Fortress c'est un monstre qui est gratuit en plus. Donc
Moi je dirais pas bravo à Blizzard pour ce qu'ils tentent d'entreprendre en tout cas. C'est parce que déjà tu vois le prix du jeu 60€. Ça fait assez cher.
Entendons bien, moi, la précommande à 60€, c'est de la carotte. Mais par contre, le tarif à 40€ à la sortie, c'est pas non plus...
Si c'est un bon jeu, c'est pas choquant non plus.
C'est un tarif standard sur PC, voilà, on va dire.
Mais après, il faut que le jeu soit vraiment bon pour que ça fonctionne. Moi, j'ai vraiment peur que, comme vous avez dit, ils sortent des DLC à la con et qui ruinent un peu l'expérience du jeu. Si c'est que des skins, tout ça, on s'en fout. Mais il y a vraiment très peu d'élus sur ce credo-là qui fonctionne bien. Tu as cité quelques jeux, moi, je pourrais t'en citer aussi un autre. Là, il y a eu cette polémique sur PDE 2 qui fonctionnait très bien jusque-là. Et puis là, d'un coup, ils avaient décidé à un moment de mettre des DLC payants qui te donnaient des boosts de compétences dans tes armes et tout ça. Et bah, ça a fait tout de suite gueuler les gens. S'ils font ça avec Overwatch, moi j'ai peur que le jeu tombe très vite dans l'oubli comme l'a pu le faire Evolve ou bien un autre jeu qui s'appelait, je crois, Overkill qui a voulu se baser que sur le multijoueur. Et finalement, bah, ça a pas du tout marché. En plus, Blizzard, c'est une communauté qui est très appréciée sur PC, mais sur console, les mecs ils s'en foutent un petit peu, je crois.
Bon. On va maintenant parler du nouveau jeu de Michel Ancel, mon cher ATH. Donc, comme je l'ai dit, c'est un jeu qui a été présenté durant la conférence Sony. C'est un jeu qui s'appelle Wild, qui avait déjà été évoqué ici, d'ailleurs. À l'époque, on n'avait pas compris ce que c'était. Je dois t'avouer, mon cher ATH, que je n'ai toujours pas compris ce que c'est ce jeu. D'ailleurs, je vais l'appeler « Je n'ai pas compris », je pense, à partir de maintenant. Mais tu vas essayer, justement, de nous expliquer ce que c'est Wild. Alors, bonne chance.
Je vais me mettre en mode communiqué de presse, hein. C'est-à-dire que je vais te dire vraiment ce que Michel Ancel a dit sur scène. Donc c'est un jeu où on incarne un chaman de son enfance jusqu'à ce qu'il devienne un homme mature. En gros, le chaman a le pouvoir de pouvoir... Il a le pouvoir de prendre le contrôle des différents animaux. Dans la démo Sony, il a pris la possession d'un aigle, d'un ours. Et ces animaux-là, tu grandiras avec eux. Et Michel Ancel a dit que, en gros, il voulait que le personnage s'attache à ces animaux de compagnie. Mm-hmm. Il y a aussi une composante à la Dark Souls qui fait son arrivée dans le jeu. Par contre, là, je sais pas trop comment ça va fonctionner, ce système asynchrone avec les joueurs. Là, j'avoue, je peux pas te donner plus de détails là-dessus.
Donc c'est vraiment sur la partie multi, il y a des interactions limitées, entre guillemets, un peu comme dans Dark Souls avec les joueurs.
Parce que, en fait, quand le chaman prend le contrôle d'une bestiole, et il faut qu'il fasse dans un endroit caché parce que à ce moment-là, il est vulnérable, tu peux te faire attaquer pas déjà par l'environnement et ils peuvent te tuer alors que tu étais en train de voler dans les airs avec un aigle. Et aussi d'autres joueurs peuvent le faire. S'ils te voient que ton personnage est comme ça en mode AFK, ils viennent, ils te poutrent la gueule et toi en fait en gros t'es mort. Donc il faut voir comment cette composante-là va être gérée. Après, le chaman en fait, c'est un peu si tu veux le médecin, le conseiller de la tribu. Dans la démo qu'on a vue, le chaman s'est rendu dans une tribu afin de pouvoir trouver un remède pour soigner les siens, parce qu'ils étaient contaminés par une maladie ou je sais plus quoi. Et là, il a invoqué en gros une dame serpent, qui est la reine des serpents, pour qu'il lui transmette un remède. Donc il y a un petit mode scénarisé là-dessus, où on devra effectuer quelques quêtes, parce que c'est un jeu qui est fait en monde ouvert, On pourra donc aller explorer le monde librement, mais je t'avoue qu'à part ça, il n'y a pas d'autres informations plus précises sur le sujet du jeu. Par exemple, tout ce qui est narration, tout ça, je sais pas ce qu'il va laisser de raconter avec ce jeu-là, Michel Ancel, tu vois.
Non, mais moi, c'est surtout le but du jeu qui m'intrigue. Enfin, oui, bah, tu vas aider les gens, et alors, est-ce que c'est un jeu d'aventure, pour le coup, où il y a une histoire, enfin, j'ai pas compris.
Moi, je pense que pour l'instant, il y a pas vraiment d'histoire, c'est plus un jeu d'expérience. Où tu vas, voilà, tu vas pouvoir, entre guillemets, te balader dans un monde ouvert avec, voilà, comme l'a dit ATH, quelques petits espaces narratifs où il faut t'aller sauver je sais pas qui de ta tribu, donc il faut t'aller voir une autre tribu pour récupérer un médicament, etc. Mais je pense que c'est plus une expérience de balade dans un monde sauvage où tu peux prendre le contrôle des animaux, faire une tribu, etc., qu'un vrai jeu d'aventure ou quoi que ce soit. Enfin, quand j'ai vu la démo et la façon dont Michel Ancel en parlait, je l'ai ressenti plus comme ça. Après, il en a pas vraiment beaucoup dit. On n'en a pas beaucoup vu dans la démo, donc c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de voir exactement ce que ça va être.
Après, c'est intriguant, hein, mais c'est juste que, je sais pas, je trouve que il est pas clair, quoi, en fait, dans ce qu'il veut faire. Est-ce que c'est un simulateur de marche, en fait? C'est ça ma question, tu vois, parce que pour le coup, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est quoi l'objectif? Et tu peux faire, entre guillemets, de l'indie arty avec ce genre de truc. Prenons par exemple Shadow of the Colossus, au moins c'est clair, tu as buté des colosses. Bon, voilà. Là, j'ai pas compris.
Je crois qu'aujourd'hui, à part lui, il y a personne qui a vraiment compris, mais...
Bah, peut-être qu'il essaie de garder des choses à dévoiler pour le développement du jeu et tout ce qui est communication. En tout cas, de ce que j'en ai vu pour le moment, ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui pourrait m'intéresser, c'est que, par exemple, on peut utiliser la force des animaux pour progresser dans les jeux, pouvoir accéder à certaines zones qu'on ne pourrait pas accéder, par exemple, à pied, en tant que chaman. Bon, quand tu prends un aigle, tout de suite, tu peux survoler la map, donc ça a l'air assez simple. Mais par exemple, si tu devais te rendre dans une grotte, il y a un passage où il y a un grand lac avec de l'eau où tu peux pas traverser, tu prends le contrôle d'un poisson, hop, 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 et tu traverses le fleuve, tu arrives dans la zone souterraine, dans la grotte, il n'y aurait pas d'autre moyen que d'accéder sans avoir ce pouvoir-là, quoi. Donc ça pourrait être intéressant à partir de ce moment-là, quoi.
On se prend la tête, mais en fait, ça se trouve, c'est juste un Tomb Raider en plus pisse, enfin voilà, quoi. Si ça se trouve, hein. Enfin bref. Ben?
Oui.
Tu vas nous parler de la dernière découverte d'ATH, vous allez voir, c'est passionnant. Et là, par contre, on va beaucoup parler, je pense.
C'est ça, c'est la découverte de la semaine. Donc ATH nous a dégoté un petit truc sur le Greenlight de Steam. Un jeu à usage unique, en fait. Donc on avait déjà parlé d'un concept à l'époque ici, mais je crois que, enfin, il n'y avait pas eu de suite.
Ah, si.
Ah ouais?
Il est sorti.
Il est sorti finalement? Parce qu'on n'a pas trop entendu parler après, mais...
Enfin, si, il y a les journaux généralistes qui en parlaient. On rappelle, l'autre jeu dont on parle, c'est un jeu où il n'y a que 8 joueurs dans le monde qui peuvent y jouer, et quand tu meurs, tu meurs. La différence, si vous voulez, c'est que ce jeu-là est un jeu gratuit.
Voilà.
Alors que celui dont on va parler là...
Celui qu'on va parler, c'est un FPS, voilà, qui vaut donc 10€ ou $10 aujourd'hui, ouais, $10, et qui est donc, ben voilà, usage unique, c'est-à-dire que c'est un FPS, si on meurt, eh ben on peut plus y jouer. Donc, vous payez $10 pour jouer à une partie. Alors si jamais, ben en plus, souvent les débuts du jeu, on sait pas trop ce que c'est, on a tendance à mourir assez vite dans des FPS, quand on connaît pas les mécaniques, les maps, etc. Donc ça veut dire que ça se trouve, vous jouez 30 secondes à votre jeu et c'est fini, c'est terminé.
10 balles, merci.
Merci, à bientôt. Merci, repayer 10€.
Alors, moi qui ai pas mal pratiqué l'arcade à une époque, je veux bien, mais l'arcade c'était en centimes que ça se
voilà,
payait.
Voilà, là c'est... C'est ce qu'on avait déjà dit pour le, voilà, si c'est un jeu qui coûte 10 centimes, on se dit, bah, même si je mets 10€ dedans, un coût de 10 centimes, ça me laisse faire pas mal de parties si j'accroche le jeu, etc. Mais là, on sait même pas, à part des vidéos, du coup, on n'a même pas pu tester le jeu. Donc, on arrive sur ce jeu, on se retrouve sur une map avec d'autres personnes qui peut-être eux la connaissent un peu plus. Enfin, bon, c'est, voilà.
Les mecs qui ont fait le jeu Day One et qui ont un peu d'expérience te poutent la gueule.
C'est ça, exactement. On sait très bien comment c'est dans les FPS. Quand on se retrouve sur du multi avec des gens qui connaissent déjà le jeu, généralement, on se fait défoncer en très peu de temps.
Non, mais de toute façon, c'est pas compliqué. Tu prends Daisy, c'est la même chose, sauf que dans Daisy, quand tu meurs, tu ressuscites avec un personnage de zéro. Ouais. Là, tu te fais dégager. Et je rappelle, pour ceux qui ont un temps soit peu joué à Daisy, ça n'est pas du tout exceptionnel de commencer à peine sa partie et de se faire poutrer au bout littéralement 2 secondes, quoi.
Ben là, alors ce qui est un peu choquant dans ce truc là, c'est que donc c'était un jeu qui était sur la plateforme Greenlight, donc c'est une plateforme de soutien en fait avant que les jeux sortent sur Steam. Donc il y a des votes qui sont organisés, savoir si les gens veulent le jeu, et le jeu a été greenlighté. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui disent on veut que ce jeu sorte sur Steam, quoi.
Non, mais les gens aiment bien se faire bananer, c'est tout, enfin.
Donc après, est-ce que les gens disent ça et au final ils vont juste regarder les gens jouer sur Twitch et ils vont pas payer eux? Peut-être aussi, mais bon, ça fait peur parce que Imaginez. Alors on est souvent assez on passe au plus mauvais côté sur ce podcast. Mais imaginez que voilà que ça prenne un peu, que les gens soient hypés par le truc, qu'est-ce qui va empêcher d'autres jeux de faire exactement la même chose dans les prochaines années quoi. C'est toujours pareil, si les ventes sont bonnes, les gens le font. Donc il y a pas de
secret.
Ah non,
mais ça à mon avis, c'est vrai que c'est le rêve mouillé des éditeurs, ça c'est
Ah bah attends, c'est pour eux, c'est tout bénef quoi.
Un truc comme ça, la vache quoi.
Donc là voilà, et on en avait déjà eu un premier voilà qui était un peu différent. Parce que comme tu l'as dit, il y avait que très peu de joueurs dans le monde.
Non, mais c'était
différent.
Gratuit surtout. Là, moi, je trouvais le concept cool. Le concept en lui-même, le fait que tu ne joues qu'une fois et que tu crèves, et si tu crèves, bah c'est fini. Moi, je trouve ça très intéressant, mais à la condition que ce soit gratuit, parce que je suis désolé. Ou alors 10 centimes, tu vois, un jeu d'arcade.
Voilà, parce que là, 10 euros, enfin c'est énorme, surtout pour ce type de jeu sur un FPS, c'est énorme.
Donc. Surtout 10 euros, et puis pour que tu rejoues, tu vois que l'option lancer une nouvelle partie sur Steam se bloque et tu dois repasser par la case bleue pour mettre 10 euros. Donc tu fais deux parties, ça fait déjà 20 euros. Donc tu vois, ça monte déjà assez vite. Quand tu sais que sur Steam, tu peux te faire beaucoup de jeux à ce prix-là. Moi, je trouve ça déjà quand même assez choquant. En plus de ça, la communication qui est faite par le studio russe qui s'appelle
Kefir,
voilà, c'est enfin tu vois une communication vraiment assez dégueulasse. Ou tu vois que par exemple un joueur qui ne veut pas perdre ses 10 euros entre guillemets s'allonge au sol pour demander à ce que l'autre personne l'épargne. L'autre joueur, ce qu'il fait, c'est qu'il a une animation où il peut pisser sur l'autre joueur une fois que celui-ci est à terre. Sinon, ce que les gens font, c'est les plus mauvais côtés de DayZ, c'est-à-dire ils te foutent en tôle et puis une fois que t'es en tôle, bah t'es un peu son esclave et il peut t'humilier encore plus. Donc moi, je trouve ça quand même assez limite, et je suis assez étonné que sur Greenlight ce genre de projet aboutisse.
Alors après, il y a déjà un truc un peu similaire sur Ark, sauf que dans Ark tu peux te faire crever, c'est ça la différence, tu vois. Là t'es obligé de te soumettre à un connard, surtout voilà. Qu'on sait la propension qu'ont les gens à vraiment être des saloperies. Enfin, je veux dire, n'importe qui a joué à DayZ sait que des fois tu tombes sur des gars mais vraiment dérangé quoi, entre guillemets quoi. Et l'option de pisser sur un mec, enfin tu fais mais
comment ça peut passer quoi,
mais dans quel monde, enfin tu dis le développeur se dit c'est une bonne idée de permettre aux gens de pisser sur les autres, c'est super malsain, c'est mais faut arrêter les mecs.
Non, mais l'autre chose moi qui me fait peur, c'est que voilà, vu leur communication assez affreuse, le jeu va sortir c'est un jeu russe, il va être la page va être qu'en anglais sur Steam. Les jeunes qui comprennent pas forcément l'anglais, alors je viens d'aller voir la page du Greenlight, il y a écrit Permadeath. Donc après voilà, après c'est un titre, donc si on lit le reste, on comprend ce que c'est. Mais si c'est un gamin de 12 ans qui achète le jeu et qui comprend pas forcément, il va se retrouver comme un con, avoir demandé à ses parents de payer 10 euros pour un jeu et se retrouver sans rien quoi.
Et après, tu vois, c'est les si ça se trouve, c'est les mêmes mecs qui vont acheter ce truc qui derrière se plaignent quand les modes deviennent payants, tu vois. Enfin, la cohérence des fois des gens, enfin bref.
Là, franchement, pour moi, enfin, le gros problème de ce jeu, on va dire que, à part la communication qui est de tous et tout ça, c'est vraiment tout une question de prix, quoi. Non, mais franchement, 10 balles, la partie, c'est quand même assez abusé et, enfin, voilà, tu fais trois parties, t'en as pour 30 euros.
Je suis même pas sûr que ce soit qu'une question de prix parce que, enfin, moi, j'ai dit que, à la limite 10 centimes, pourquoi pas, parce que, effectivement, il y a la carte, tout ça, mais, tu sais, moi, j'ai tendance à me dire que dès que tu commences à entrouvrir ce genre de porte, en fait, t'as un éditeur qui va venir, qui va te mettre le pied dans la porte et qui va niquer derrière, quoi. J'ai pas suffisamment confiance au système pour me dire qu'on, même à 10 centimes, on peut laisser passer ça, en fait. Parce que je me dis, ok, ça commence à 10 centimes, mais derrière, on va augmenter petit à petit, tu vois. La salle d'arcade, tu y vas, on te laisse le choix encore. C'est-à-dire que, bon, tu veux pas aller en arcade, de toute façon, t'as toujours tes jeux consoles, etc. Mais si demain, t'as plein de jeux qui passent sur ce modèle, tu fais comment? Enfin, c'est ça le truc, c'est sur Steam, on te laisse pas le choix, hein, mon coco. C'est ça le problème.
Ouais, non, ça, c'est, enfin, pour moi, le truc qui aurait été, le plus judicieux, je pense, c'est que ils vendent le prix de son jeu tel qu'il estime, 20 euros, 30 euros, voilà. Tu l'achètes comme un jeu classique, et au pire, s'il veut vraiment garder ce système de permadeath efficace, c'est que tu te manges, en gros, tu peux pas jouer pendant, je sais pas, une heure ou 24 heures selon, voilà, la disponibilité de ce que t'as envie de faire.
Ou même une semaine, hein, moi je m'en fous, mais, enfin.
Ouais, mais après, voilà, il faut que quand même les gens ils viennent y jouer parce que c'est le fait de rencontrer d'autres gens qui fait la force du jeu. Si au bout d'un moment il y a plus personne sur le jeu, bah, déjà, tu perds beaucoup d'intérêt au jeu.
Mais justement, vois, le fait de mettre, par exemple, sa limite d'une semaine, ça incite les gens peut-être à ne pas tuer comme des Mongols tout ce qui passe, tu vois. Enfin, par exemple, ça, c'est une idée comme ça, mais si ça se trouve, ça marcherait pas du tout.
Ouais, avec les gens, faut se méfier.
De ce que j'ai pu en voir, c'est que s'il y a un mec qui voit un autre mec, bah, il lui tire dessus direct sans se poser la question, quoi. Il en a rien à foutre. Il réfléchit pas, quoi. Ouais, tu vois, il se dit c'est lui ou moi, donc il y a ça. Et en plus de ça, dans le jeu, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a aussi des mutants qui font partie de l'environnement du jeu, qui peuvent aussi s'attaquer. D'accord. Donc ça fait que tu peux, voilà, si t'es en combat contre un autre mec, et puis qu'il y a un mutant qui vient derrière, il te bute, bah tu peux être clairement dégoûté, quoi. Des fois t'es pas concentré, et puis il y a un truc qui arrive, tu sais pas d'où, et qui vient et qui te défonce ta gueule. Donc moi vraiment je trouve ce jeu et ce système assez dégueulasse, et en plus de ça là je reste poli.
Mais là tu vois, c'est un jeu indépendant, on est d'accord, ouais. Il est sur Greenlight, oui, forcément il est sur Greenlight, c'est indépendant. Enfin, là ça fait partie de ces cas en fait, où ce serait un éditeur qui ferait ça. Ça serait la révolution, tu vois. Enfin, les gens diraient Activision enculé, Electronic Arts pire éditeur de l'histoire, machin bidule. Là, c'est un indé, c'est hype, quoi.
C'est ça qui me fout, qui me fout plus la gerbe.
Comme il y avait la hype avec Hatred à l'époque. C'est...
Bah d'ailleurs, Hatred, enfin, excuse-moi de couper, Ben, mais Hatred, on l'a bien vu que c'est tombé très vite dans les tréfonds de l'oubli, quoi.
Bien sûr, ouais.
Il a fait son buzz une semaine. Tous les sites spécialisés, on en a parlé. Et puis après, les gens ont essayé, ont vu que c'était de la merde, ils ont dit salut.
Mais tant mieux, heureusement.
Oui, bah heureusement.
Et si ça pouvait être la même chose pour ce genre de jeu-là, de toute façon, ça serait très bien. Mais comme on l'a dit, le seul moyen aujourd'hui de lutter contre ces choses, c'est de pas acheter les jeux. Comme on a pu le dire pour les jeux Day One, de pas les acheter, de pas faire de préco, etc. Là, c'est la même façon. Le seul moyen de lutter, c'est le portefeuille. Donc n'achetez pas ce jeu. Déjà, ça fait chier, on va dire, qu'il ait été greenlighté, parce que nous, en tant que joueurs, ouais, on n'a pas envie de voir des choses comme ça arriver.
Non, mais j'espère que vraiment que ce jeu va tomber dans les tréfonds de l'oubli de l'internet, quoi.
Ouais.
Parce que c'est pas possible, quoi. Enfin, là, il fait son petit buzz et tout ça, ok. Mais j'espère vraiment que le mois de sa sortie, on n'entendra plus parler. Et parce que franchement, si je vois des articles qui pop dessus et tout ça, ça me foutra un petit peu la gerbe, quoi.
Ouais, mais est-ce qu'on lui fait pas un peu aussi de publicité?
C'est ce que j'allais dire, d'en parler. On en reparlera plus jamais.
Le fait d'en parler, on fait forcément de la publicité, mais je trouvais ça quand même que les gens sachent notre point de vue là-dessus, quoi.
Après, on est d'accord, c'est un jeu qui a été validé sur Greenlight. Le problème avec Greenlight, c'est qu'on ne sait pas le seuil de personnes qu'il faut pour qu'un jeu soit validé, en fait. C'est au bon vouloir de Valve, on va dire. Donc, c'est Astro, c'est trois pèlerins qui ont voté
peut-être
pour le truc,
oui,
et quand il sortira, voilà, quoi. J'espère. On touche du poing. Bon, on va passer à mon coup de gueule maintenant. Et on va parler de Darkflame. Darkflame, c'est quoi? C'est un copier-coller de Castlevania Symphony of the Night, et j'ai à peu près tout dit. C'est-à-dire que vous prenez le jeu, l'esprit, c'est Castlevania Symphony of the Night, le personnage principal, en gros, dans la version de base, il avait mis Alucard, mais entre-temps, il a un peu corrigé le jeu, donc ça ressemble un peu moins à Alucard, mais en gros, c'est un Metroidvania, encore, avec les animations de Castlevania Symphony of the Night, encore, surtout que, j'ai envie de dire, vu la chez Castlevania qui ont repris les animations de Symphony of the Night, c'est pas comme si on les connaissait pas par cœur, c'est putain d'animation et c'est putain de sprite. Et donc, c'est un jeu qui est sorti sur Kickstarter, qui est en train de se planter, et ma foi, c'est très bien, parce que, voilà, mon coup de gueule, j'en ai plein le cul des Metroidvania. J'adore ça, hein, à la base, hein, mais à un moment donné, faites une direction artistique originale, faites des ajouts au gameplay, je sais pas. Là, c'est vraiment copier-coller, et j'en ai juste plein le cul de ce genre de projet. Ras-le-bol, voilà.
C'est vrai que quand tu vois la vidéo, tu demandes quelle est la plus-value de ce jeu-là par rapport à un Castlevania classique, quoi. Ce jeu-là, j'y ai même pas joué, j'ai l'impression de le connaître par cœur, en fait. Tu peux très bien t'inspirer de Castlevania Symphony of the Night ou de n'importe quel jeu qui t'a marqué. Mais le copier-coller comme ça, je trouve ça quand même assez honteux, moi. Enfin, c'est un plagiat. Il y a aucune mécanique qui a l'air d'en sortir, quelque chose d'innovant. C'est du déjà vu.
Si tu veux, ce qui m'agace aussi, c'est que derrière, on a des articles qui sortent et qui disent oui, mais il y a des jeux sur Kickstarter qui ne sont pas financés. Oui, mais surtout ces jeux qui ne sont pas financés, combien il y a de merde dans ce genre. Enfin, je suis désolé, je suis très cru, je suis très direct vis-à-vis de ce projet, mais là j'en ai juste plein de cul de voir ça, quoi, en fait. C'est-à-dire que t'as un mec qui n'est pas original pour un sou, qui fait du copier-coller, et après on va pleurer parce qu'il se fait pas financer. Mais attendez, là, enfin, stop, quoi. Stop.
On n'est pas des vaches à lait non plus, au bout d'un moment. On a financé au début, voilà, on en a parlé il y a pas longtemps, que toi t'avais financé une 30 ou 40 jeux sur Kickstarter. Déjà, ce qui est assez énorme. Mais on va pas non plus financer à tour de bras les jeux, on veut bien être sympa, mais c'est pas que de la gentillesse le financement, c'est
et
aussi...
Et encore une fois, moi, une précision, je me fous de l'originalité d'un jeu en fait. Mm. C'est extrêmement difficile d'être original en fait. Ce que tu peux faire par contre, c'est apporter ton petit plus à toi. C'est pas forcément super méga original, mais t'apportes la petite feature qui fait la différence, tu vois. Pour moi, ça suffit, déjà. Là, en fait, enfin, je sais pas, je vois le Kickstarter, je me dis, ok, les animations, c'est Castlevania, le jeu, c'est Castlevania, qu'est-ce que tu apportes?
Ouais, en plus de ça, enfin, comme tu l'as dit, l'originalité, c'est quelque chose d'assez dur à avoir, mais, Castlevania, dans un château gothique, on l'a déjà vu mille fois, il pourrait le faire, je sais pas, par exemple, dans le monde des bisounours, ça serait au moins un peu plus original que de faire le copier-coller vraiment de Symphony of the Night. Moi, le conseil que je peux donner dans ce genre de jeu-là, c'est si vous avez pas fait les anciens, faites les anciens en émulation. C'est des classiques du jeu vidéo et ils ont déjà été, si vous voulez, approuvés par la communauté des joueurs. C'est des jeux qui ont fait leur temps, voilà.
Ouais, mais surtout, pourquoi payer ce genre de truc quand tu as des jeux excellents comme Guacamelee, qui en plus apporte sa petite touche à lui, qui a une direction artistique de gros taré, quoi. Enfin, je veux dire, des Metroidvania excellents, en plus, c'est pas comme si on en manquait, quoi, quelque part.
Ouais. C'est vrai que Metroidvania, c'est un terme qui a été repris un peu partout, où chacun voulait se revendiquer comme un nouveau Metroidvania, mais si tu regardes vraiment ceux qui ont marqué leur époque, bon bah déjà il y a Metroid, il y a les Castlevania, Guacamelee qui a apporté vraiment son univers en plus de faire des références aux jeux vidéo et plus voilà c'est
non
c'est
mais un, en plus son gameplay tu sais de switch entre les mondes
voilà, c'est ça,
qui est vraiment original enfin pas
le capture luchador là qui se téléporte d'une dimension à une autre. Il y a d'autres jeux vidéo qui l'ont utilisé, mais c'était pas du tout dans le même registre, ou bien ouais. On en a pas vu tellement. Par exemple, je pense que Legacy of Kain, où tu vois, tu pouvais passer d'un monde à l'autre.
Et tu exploitais les différences entre les mondes.
Voilà.
Voilà.
Mais donc, c'était quelque chose qui était quand même assez novateur pour l'époque.
À noter quand même que bon, il demande 75 000 $. Après 4 jours, il en a eu 2 500. Il y a de fortes chances pour qu'il se fasse pas kickstarter, quoi.
Ouais. Et je précise, bon, là, c'est lui qui prend, mais en fait, oui, c'est plus un coup de gueule qui vient à force.
C'est de façon générale.
Ah, mais après, le jeu, ça se trouve, il sera peut-être très bon. Mais si c'est vraiment que de la même chose, les gens, ils ont peut-être pas envie de financer quelque chose qu'ils ont déjà joué 200 fois.
Bah, surtout, pourquoi jouer à celui-là alors que tu joues à Symphony of the Night, qui a l'air vachement mieux, en plus, quoi. C'est ça, quand tu vois, en plus, la vidéo, elle fait pas envie, quoi. Non, mais en plus, ah oui, ça, un autre coup de gueule. Le pixel art. Alors, le pixel art, messieurs, dames. Moi, je veux bien, hein. Il y a des jeux qui sont super beaux en pixel art. C'est un choix de rendu qui est cool. Mais par contre, il y a un moment donné où j'ai vraiment l'impression que le pixel art, c'est plus, de la hype qu'autre chose. Alors, je vais pas dire de la flemme parce que c'est quand même du boulot. Mais c'est vraiment pour profiter de la hype du truc et finalement, il y a pas vraiment de recherche, quoi, derrière. Le pixel art, ça n'a d'intérêt que si vraiment tu apportes une touche visuelle unique à ton jeu, quoi. Si c'est pour faire ça, un copier-coller d'esprit de Symphony of the Night, ça ne sert à rien, ça dessert ton jeu, même au contraire. Ça veut dire que tu n'es pas foutu de créer ta propre identité, quoi, quelque part. Et moi, le pixel art, je commence à en souper sur pas mal de jeux, parce que les mecs ne savent juste pas faire du bon pixel art, quoi.
Bah, c'est vrai que, on en a vu beaucoup qui ont pris le système de pixel art, mais, est-ce que des fois, c'est parce que, voilà, c'est un petit peu la mode et tout, mais je pense que dans la plupart des cas, c'est parce que c'est plus simple à faire et ça coûte
beaucoup
moins
cher
que de faire...
C'est faux. Ah n'importe qui a essayé de faire des sprites en 2D, c'est que, enfin, c'est faux. C'est pas plus simple à faire. C'est une autre méthode de travail. Ça par contre, parce que c'est un truc qui m'agace aussi quand on dit oui, le pixel art c'est simple à faire. Je suis désolé. Aujourd'hui, vu comment il y a des moteurs 3D avec Unity qui te permettent de faire des trucs super cool très facilement. Qu'on vienne pas me dire que c'est plus simple de faire du pixel art. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Moi, je pense vraiment que c'est juste un effet de mode. Effectivement, je pense qu'il y a des gens qui ne sont tout simplement pas inspirés, en fait, et qui du coup se disent, bah, on va faire du pixel art, tu vois. Sauf qu'ils savent pas faire du pixel art.
Je pense que faire une 2D léchée, c'est beaucoup plus compliqué que faire du pixel art.
Ah, tu voulais parler de 2D, je croyais que tu parlais de 3D, excuse-moi, autant pour moi. Voilà,
moi, je te parlais vraiment en tout ce qui était 2D, tout ça, parce que la plupart des vagues de jeux indépendants qui sont sortis, c'était, ils ont vraiment pris du pixel art en 2D et t'en as bouffé à toutes les sauces. Mais du fait que, si tu veux, c'est un truc qui est là depuis beaucoup plus longtemps que, si tu veux, la HD, entre guillemets, ou bien ce genre de choses-là, les gens, ils ont beaucoup plus d'expérience à ce niveau-là, quoi.
Bon, on va passer à notre jeu du moment. Et pour le coup, c'est un jeu qui est original, qui est en pixel art. Donc comme quoi, je suis pas non plus forcément farouche à ce type de choses. Et ce jeu s'appelle Undertale.
Tout un argumentaire que t'allais faire sur le jeu avec le débat qu'on a fait juste avant.
Bah non, on n'a pas niqué mon argumentaire. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu, pour le coup, qui a tout pour lui. C'est-à-dire que je disais qu'il y a des gens qui font du pixel art, mais qui ne savent pas faire du pixel art avec une identité visuelle. Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut d'un Undertale. Il a une identité visuelle qui est bien à lui. Je disais aussi qu'il y a des jeux indés qui s'inspirent d'autres jeux. Là, en l'occurrence, Undertale s'inspire de Mother, un jeu qui est inconnu pour la plupart des gens, mais qui a sa petite communauté, on va dire, de fans absolus.
Dont moi.
Sauf qu'il a sa propre touche aussi, sa propre patte. C'est un jeu qui vraiment apporte son originalité à lui, qui est en pixel art et que j'apprécie énormément. Alors, pour vous présenter Undertale, on va dire que c'est un RPG japonais pacifiste, pour faire simple. Alors, qu'est-ce que j'entends par RPG japonais pacifiste ? C'est-à-dire que c'est, je crois, le seul exemple de RPG japonais que je connais où tu peux finir le jeu sans tuer une seule personne. C'est un jeu qui a un système de combat qui est assez original. Attention, quand je dis combat, c'est entre guillemets. C'est-à-dire que dans ce jeu, tu as deux possibilités. Soit tu te la joues JRPG classique et tu butes tout ce qui bouge. Soit tu essayes de convaincre tes adversaires de ne pas t'attaquer, en gros. Alors je vais vous donner un exemple parce que comme ça je sais que ça paraît assez nébuleux. Tu as un système où tu peux soit attaquer, soit choisir des options entre guillemets de dialogue qui vont te permettre de débloquer certaines situations. Il faut qu'à un moment donné, tu débloques le trigger, en fait, qui va dire, ça y est, ton adversaire en face, il est prêt à ne pas t'attaquer. Enfin, il est prêt à t'épargner, en gros. Et dès que ouais. Tu sélectionnes l'option épargner, à ce moment-là, vous vous quittez en très bons termes. Voilà.
Mais genre, c'est tu arrives au bout du niveau, ou bien il y a quelque chose de spécifique à faire pour avoir cette option-là ?
J'ai pas dû m'expliquer clairement, alors, parce que c'est justement ce que je disais. Évidemment, il y a des choses spécifiques à faire. En gros, t'as des options de dialogue à choisir, si tu veux. Certaines marchent, certaines ne marchent pas, en fait.
Donc ouais, il faut que t'analyses comment fonctionne l'ennemi, entre guillemets, pour savoir quel truc, quel dialogue va faire que tu vas aller dans son sens pour,
voilà.
Pour aller l'épargner. Ouais.
Sachant qu'il y a des ennemis qui ne t'épargneront pas. C'est-à-dire que ça, c'est au début, tu vois, c'est quand c'est facile, etc. Sauf qu'il y a des boss, vraiment, qui ne te laissent pas le choix, qui veulent vraiment te buter. Et tu vois, c'est un jeu où pacifiste, ce n'est pas toujours une promenade de santé, et où finalement, le fait de tuer quelqu'un, ça peut être une facilité, quelque part. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais c'est... En fait, ce jeu est tellement original sur ce point-là que c'est un concept qui est très difficile à expliquer.
Si. Non, moi, j'ai compris assez clairement ce que tu voulais dire. Enfin, je vois qu'il y a chaque combat et sa situation particulière qu'il faudra deviner pour si on faire une run entre guillemets pacifiste.
Voilà.
Et que le combat, on va dire, comme se joue dans un JRPG classique, est peut-être beaucoup plus simple parce que c'est vraiment du combat au tour par tour comme on en connaissait à l'époque, quoi.
Alors non. Par contre, il est pas beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce que les phases entre guillemets de shoot'em up. Parce que à chaque fois que tu fais une action dans ce jeu, tu as une phase de shoot'em up. C'est-à-dire que t'as plein de projectiles qui t'arrivent sur la gueule, tu es enfermé dans une espèce de carré, Et il faut que tu évites ces projectiles-là. Tu as des points de vie, quand même. Et à chaque fois que un projectile te touche, tu perds des points de vie. Donc ça veut dire que c'est pas facile du tout, hein. Non, méprenez-vous, messieurs dames, pas du tout. À chaque fois que tu vas faire une putain d'action dans ce jeu, tu vas perdre des points de vie. Enfin, sauf si tu réussis à éviter les projectiles. Mais potentiellement, chaque action dans ce jeu peut te faire perdre des points de vie. Ce qui veut dire que, assez rapidement, en fait, il faut que tu identifies les patterns de ton ennemi, parce que sinon, ça va traîner, et à moins que tu sois un dieu du shoot'em up et que tu arrives à éviter tous les projectiles, tu vas crever.
D'accord.
Voilà. Ouais.
Mais je veux dire, les phases de shoot'em up, c'est pas du Damanku non plus, quoi.
Ça dépend.
Ah, quand même, ouais.
Ah, si. Enfin, il y a, dans la run normale, je pense qu'à part le boss de fin qui est assez corsé et un autre boss qui est un peu casse-couille, ça va, enfin c'est gérable. Par contre, dans la run qu'on appelle la run génocide, qui est en fait la run où tu joues comme dans un JRPG classique, notez bien le nom, hein, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle génocide. Là par contre, tu as des boss, c'est un truc de psychopathe. T'as des tirs qui t'arrivent de partout, enfin c'est un truc de grand malade quoi. Pourquoi je trouve aussi qu'il est original, c'est notamment grâce à ce système de combat qui mêle JRPG et entre guillemets shoot'em up. Je sais pas comment on l'appelait autrement parce que ça se rapproche du shoot'em up, mais t'as pas la partie shoot entre guillemets.
Bah c'est du shoot, du esquive shoot.
voilà, exactement. C'est un système qui est super bien branlé, qui est original et qui est très addictif. Après, le défaut de ce système, c'est que pour toutes les phases de dialogue avec les ennemis, en fait, c'est toujours les mêmes. Donc au bout d'un moment, les patterns des ennemis, tu les connais, tu avances assez vite, quoi. Mais je pense que c'est fait exprès, pourquoi ? Parce que c'est un jeu où vous allez faire, si vous appréciez l'expérience, plusieurs runs.
L'expérience est assez courte, en fait, pour une run, on va dire.
Je crois que c'est 6 ou 7 heures de mémoire. Là, je parle de mémoire, parce que ça fait un moment que j'y ai joué, hein, mais
ouais, donc,
de mémoire,
donc,
c'est
6
ou 7 heures, voilà.
Pour relancer une run, c'est pas comme si tu devais taper 30 heures de jeu, et puis...
Sachant qu'il y a 3 ou 4 runs, à peu près, de fin différente, quoi, entre guillemets.
Ouais, parce que depuis tout à l'heure, tu parles de tout ce qui est gameplay et tout ça dans le jeu, mais comme c'est un RPG, on va dire, il y a quand même une notion qui est essentielle dans ce genre de jeu-là, c'est tout ce qui est histoire. Et narration, et là...
Alors, histoire, pas vraiment, parce que l'histoire, elle est très classique, entre guillemets, c'est une histoire, une histoire mignonnette, quoi, on va dire. Par contre, là où ce jeu fait très fort, c'est l'ambiance. Et c'est la narration, c'est les dialogues, c'est la qualité d'écriture. C'est un jeu qui est extrêmement bien écrit, Undertale. C'est un jeu qui est drôle. C'est un jeu qui est aussi très malsain par moment. Je m'explique. Undertale, ça doit à peu près être le seul jeu au monde que je ne peux pas finir en run génocide. C'est-à-dire en run JRPG classique. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui est tout mimi. Et comme c'est un jeu qui est tout mimi, avec des personnages super attachants, tout mimi, les moments où tu joues un personnage de JRPG classique qui tue tout le monde, tu as vraiment l'impression de jouer un psychopathe. Il y a deux facettes. C'est-à-dire, tu as la facette que la plupart des joueurs qui vont jouer le jeu, entre guillemets, vont connaître. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est drôle. T'as tout le temps la banane, quoi, si tu veux, quand tu joues à ce jeu. Vraiment, t'as des phases de dialogue où tu t'attaches au personnage, il dit « Ouais, tu es en train de me draguer, etc. » Et puis, sachant que le mec qui te dit ça, c'est un squelette. Hein,
ouais. Ah ouais, ok.
Et c'est des monstres gentils, quoi, entre guillemets. Et puis, t'as des moments de noirceur aussi. C'est-à-dire qu'il y a des passages dans ce jeu, même quand tu joues une run normale.
Une run normale, c'est quoi ? C'est génocide ou non-génocide ?
Non-génocide. Enfin, moi, d'accord. Je pars du principe que tu joues le jeu, en fait, entre guillemets.
Ok.
Et quand tu joues une run normale, il y a des passages quand même qui sont assez glauques, tu vois. Et ces passages sont d'autant plus glauques qu'ils sont vachement bien mis en scène et qui contrastent singulièrement avec le reste du jeu. Alors maintenant, imagine-toi, tu es un gars, tu as terminé le jeu, tu es très attaché au personnage, et maintenant tu vas jouer une run où tu vas buter tous ces personnages. Enfin, tu vois le délire un peu du truc. Enfin, c'est un jeu qui, comme aucun autre jeu auquel j'ai joué avant, te met très mal à l'aise vis-à-vis du fait de tuer des gens. Enfin, s'il y a un autre jeu qui a réussi à me faire ça, c'est Spec Ops The Line. Spec Ops The Last, c'est l'un des rares jeux quand même qui te fait questionner par rapport au fait de tuer des gens, quoi. Ça, Undertale arrive à très bien le faire aussi.
Ouais, pour ce qui est Spec Ops The Line, je connais bien parce que j'ai fait le jeu, mais donc là ce que tu me dis, ça m'intéresse forcément parce que j'ai vraiment bien apprécié ce qui s'est passé dans Spec Ops The Line. Mais je voulais te poser une question par rapport au système de jeu. C'est que tu m'as dit quand j'ai demandé par rapport à la run génocide ou la run classique, tu m'as dit que la run classique c'était de tuer personne, mais c'est-à-dire que dans tout ce qui est texte et tout ça, le jeu t'incite à vraiment à tuer personne, ou bien c'est dit plus subtilement, où il y a quelque chose qui dit qu'il faut pas tuer les monstres, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que on t'incite vachement à tuer personne.
Enfin, non. Non. C'est, le jeu ne t'incite pas. Au contraire, c'est même plus facile de tuer les gens, hein. Très honnêtement, hein. Alors, attention. Disons que c'est plus facile de tuer les gens jusqu'à un certain point. Il faut savoir une chose, c'est que la run génocide a des pics de difficulté, en fait. Il y a certains boss qui sont monstrueux en run génocide. Qui sont vachement plus durs que run classique, entre guillemets. Mais par contre, d'une manière générale, c'est beaucoup plus facile de tuer les monstres en un coup que, entre guillemets, de les convaincre de te lâcher la grappe, quoi.
Ok.
Ben ?
Ouais, moi, la question que j'avais, mais du coup, tu as un peu répondu, c'est est-ce que le jeu, voilà, te poussait à jouer de tel type ou d'un autre, quoi ? Est-ce qu'il te poussait, donc, à jouer le pacifiste ou le génocide ? Voilà, c'est...
Moi, c'est pas le sentiment que j'ai après.
Ouais, c'est moi, j'ai l'impression à l'appréciation de chacun.
C'est l'appréciation de chacun, mais j'ai tendance à penser que la plupart des gens n'étant pas des psychopathes, en tout cas, quand ils vont voir ces esprits de monstres tout mini qui leur ont rien fait, tu vois, ils vont pas les tuer en fait. Moi, c'est pour ça que j'appelle ça la run normale, parce que j'ai tendance à penser que les gens sont normalement constitués, on va dire. Et non,
d'autant plus que je pense que ce qui a attiré les gens dans ce jeu, c'est aussi ce côté-là, le côté de tout faire sans tuer personne. Parce que si tu cherches un JRPG pour tuer des gens, tu vas pas te tourner vers celui-là, parce que comme tu l'as dit, c'est pas l'histoire qui fait le jeu. Donc c'est le côté sympa, c'est vraiment voilà ce que t'as dit, d'essayer de faire le jeu.
L'écriture et du voilà, coup,
de trouver les failles de chaque ennemi pour justement éviter de les tuer, quoi.
Voilà. Bah justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu fais un JRPG, enfin moi quand je faisais les JRPG avant, je me suis jamais posé la question, en fait je me suis jamais questionné sur les adversaires que j'affrontais, quoi. Je me suis dit c'est un obstacle, et puis en gros quand je finissais un combat, je me suis pas dit ah ouais bah là je viens de tuer un démon maléfique, tu vois.
C'est une notion qui est très occidentale en fait.
Voilà. Je me suis dit vraiment que j'ai franchi l'obstacle, quoi. C'est un peu comme dans Pokémon, vous savez très bien que les Pokémon ils meurent pas à la fin d'un combat, ils sont KO. Et là, j'ai l'impression que, en fait, il fait un rapprochement, en fait, que, il te dit, bah, tu te rappelles de tous les monstres que tu as tués dans les anciens JRPG? Et ben, en fait, tu les as vraiment tués, quoi. C'est comme si, en gros, le jeu, il me disait ça, là, de ce que tu es en train de me dire.
C'est ça. C'est d'autant plus marquant quand tu es un gros consommateur de JRPG comme moi, qui a certaines habitudes de gameplay.
Bah, ouais.
Et qui se rend compte que ouais mais non pas du tout là en fait c'est pas comme ça qu'il faut que je joue, quoi. Et
ça doit vraiment te questionner, quoi, en fait. Alors
et franchement je vous le dis, j'ai fait une run pacifiste, mais c'est une run où j'ai dû tuer un perso parce que j'avais l'impression qu'il me laissait pas le choix, en fait, ce perso là
ouais.
Et en fait je me suis rendu compte qu'après on pouvait ne pas le tuer, et c'est l'un des seuls jeux où putain mais j'étais non seulement mal à l'aise, mais j'ai regretté, quoi. Parce que c'est un perso, si tu veux, en fait, auquel tu es extrêmement attaché quand tu es un joueur. Enfin, moi, en tout cas, j'étais extrêmement attaché à ce perso-là. Et j'ai dû le tuer, en fait. Et ça m'a mis, mais ça m'a retourné le cerveau, quoi. Et ce jeu, en fait, c'est ça. C'est un JRPG avec des mécaniques originales qui te retournent le cerveau. Et c'est le seul jeu, à ma connaissance, avec Spec Ops The Line, qui vraiment remet en cause la notion de tuer, quoi. Et qui le fait de manière d'autant plus intéressante, qu'il le fait par le gameplay, tu vois. On te raccompagne, on n'est pas là, on n'est pas en mode cinématique, on te montre des trucs, ah là là, c'est mal de tuer. Non, c'est par le gameplay, c'est de la narration par le gameplay, où on te montre que tuer, bah voilà, ça a ses conséquences là, voilà.
Ah c'est ben en tout cas c'est ton jeu il donne vachement envie, enfin je t'en avais parlé un petit peu de toi à moi, je t'avais dit que ouais c'était un truc qui m'intéressait vachement parce que voilà moi j'aime beaucoup Mother parce qu'il a cet aspect très enfantin en même temps qu'il raconte quelque chose quand même d'assez compliqué et en fait j'ai peur que les gens aussi, il y a certaines personnes qui se disent, par rapport à l'esthétique du jeu, ça a l'air d'un truc pour gamin, assez enfantin. De ce que tu me dis, ça a l'air d'être vachement le contraire, d'être vachement mature sur le média, quoi.
Voilà. En apparence, tu vois, c'est une histoire pour gamin. Mais dès que tu commences à creuser un peu, tu te rends compte que non, pas du tout. Et ce jeu, vraiment, je vous le dis, je suis incapable de le finir en Run Génocide. Je ne peux pas. C'est impossible pour moi de le finir en Run Génocide. Je suis trop attaché au personnage. J'ai trop l'impression de jouer un malade mental quand je joue la Run Génocide. Et ça, c'est le seul jeu qui arrive à le faire, en fait. Parce que, encore, tu vois, Spec Ops The Line, il m'avait mis mal à l'aise. Mais celui-là, il me met plus que mal à l'aise, quoi. C'est vraiment, c'est au point où je ne peux pas finir le jeu comme je finis un JRPG classique, tu vois.
Ouais.
Bref, voilà. Enfin, voilà pourquoi, à mon sens, Undertale, pour conclure, c'est un jeu indispensable. Enfin, pour moi, c'est un indispensable, c'est un jeu culte. Je le dis comme je le pense, c'est un jeu qui... Enfin, ça fait partie de ces jeux, je pense, qui ne seront pas très connus, mais qui apportent vraiment quelque chose aux médias, quoi. Un peu comme Brothers, qui, pour moi, apportait quelque chose dans la narration par le gameplay. Là, Undertale, il l'a apporté. C'est vraiment un de ces rares jeux, c'est une perle, pour moi, qui apporte quelque chose aux médias jeux vidéo, tu vois. Contrairement à pas mal de... qu'on va dire de créateurs du jeu vidéo, n'est-ce pas, qui ont la prétention de faire de la narration. Enfin, non, je ne vise personne, on va pas s'aventurer sur...
Ah, parce que j'ai eu peur, j'ai cru que tu parlais de David Cage d'un coup.
De ATH chute. Voilà. Enfin, je sais pas si je peux ajouter autre chose. Ah si. C'est un jeu qui casse énormément le quatrième mur. Et je vous donnerai un dernier conseil et on s'arrêtera là. Ne commencez pas par une autre génocide. Voilà, salut.
C'est justement ce que j'allais te dire. Pour éviter d'avoir ce côté-là que t'as eu de pas pouvoir recommencer, est-ce qu'il vaudrait mieux pas commencer par une run régénocide et après refaire le jeu en pacifiste?
Ne commencez pas par une run régénocide. Je ne peux pas ajouter plus. Ça serait du spoil.
D'accord.
Mais c'est un jeu qui casse le quatrième mur, mais vraiment, quoi. Donc.
Mais il le fait à plusieurs moments ou
à plusieurs moments.
Et oui, c'est amené de manière intelligente, quoi. J'ai envie de dire, c'est pas
super intelligent. Enfin, c'est un jeu. Enfin, il m'a épaté. C'est un jeu qui m'épate. Voilà. Enfin, ça fait partie de ces jeux, tu vois. Quand tu les regardes comme ça, tu dis mais c'est de la merde. Enfin, quand tu les regardes de loin comme ça d'un œil pas trop attentif, honnêtement, c'est un jeu que j'avais vu passer sur Kickstarter et qu'à l'époque j'avais pas financé. Parce qu'à l'époque, je me dis, ouais, encore un jeu indie branlette, arty, tu vois, pas intéressant. Ouais. J'aurais mieux fait de le financer, parce que franchement, c'est un jeu...
C'est pas grave, du moment que tu as donné ton argent au mec, une fois, enfin, sur Kickstarter, il en avait besoin pour faire le jeu, mais de toute façon, ton argent, il a touché. Et d'un côté, tu as contribué aussi à remercier la personne qui a créé le jeu, quoi.
Alors après, c'est pas un jeu qui est parfait. Comme je l'ai dit, le fait que tu identifies les patterns des ennemis, ça amène une certaine répétitivité de l'ensemble. Surtout que derrière, quand tu fais une run différente... il faut savoir qu'il y a plusieurs runs pacifistes en fait, et que quand tu refais une run pacifiste, il y a quand même une certaine répétitivité qui arrive, quoi. Même s'il y a des différences, hein, mais je trouve qu'elles ne sont peut-être pas assez significatives, même si le jeu va beaucoup plus vite parce que tu connais les patterns des ennemis. Mais quand même, il y a une certaine répétitivité à ce niveau-là. C'est pas un jeu qui est parfait, entre guillemets, loin de là. Aussi, techniquement, bon, même si j'aime bien le pixel art, il faut quand même avouer que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont complètement buter sur la gueule du jeu. Parce qu'il faut quand même avouer que c'est assez spécial, quoi. Faut adhérer au délire, hein. Mais, d'un autre côté, on peut pas lui retirer qu'il a son identité. Voilà.
Mais justement, est-ce que tu penses que toi, à cause de la répétitivité, si on fait l'expérience qu'une seule fois, est-ce qu'on, entre guillemets, on en aura pour notre argent, quoi? On sera quand même satisfait si on le fait une fois.
À mon avis, déjà, tu peux le faire deux fois, le jeu. Tu peux le faire en run pacifiste et en run génocide. Attention, la run génocide est vraiment très différente de la run pacifiste. Hein. Ça, par contre...
Ouais, mais est-ce que... je veux faire deux runs pacifistes, et je vais me dire, voilà, donc, ok, mais... je vais commencer la deuxième run, je vais arriver au milieu du jeu ou bien assez loin, et je vais me dire vraiment, ouais, il y a pas vraiment grand chose qui change, c'est assez répétitif, ça me rappelle la première partie, et si j'arrête là, je serai quand même satisfait d'avoir fait la première run, quoi.
Ben, moi déjà, la première run, elle m'a mis une baffe monumentale, donc oui. Mais déjà, si tu commences par une run pacifiste, normalement, je peux pas, ça spoil, mais... Putain, ça c'est aussi le problème avec ce jeu, c'est que... Il y a tellement de trucs où faut faire attention parce que si tu en dis trop après ça gâche un peu l'expérience, mais vraiment c'est un jeu qui est unique et c'est un jeu à faire je pense. En tout cas si vous êtes fan de JRPG faites-le parce que c'est un jeu qui va vous retourner le cerveau.
Il y a aussi des références à des RPG plus occidentaux.
Le seul truc auquel tu penses quand tu joues à ce jeu c'est à Mother. Mais le reste c'est vraiment son propre truc quoi. Bref, je vous propose qu'on s'arrête là messieurs.
Ouais, juste yes. À noter que si ça vous plaît, il est qu'à 10€, donc c'est allez-y visiblement si vous avez apprécié ce qu'il
dit. Ah oui,
non,
mais en plus à ce prix-là, c'est voilà, c'est à faire.
C'est donné.
C'est absolument à faire. Absolument.
Non mais moi j'ai 10 balles, je vais jouer à One Life, tu crois quoi mec?
Ah bah.
Non mais honnêtement hein, pour moi c'est un indispensable. Si on me demandait une liste de jeux qu'il faut faire qui sont importants dans les médias, t'aurais probablement des trucs comme Brothers, comme Spec Ops The Line. Et t'aurais ce jeu-là aussi. En tout cas, c'est des jeux qui vraiment, je pense, apportent quelque chose aux médias, et c'est suffisamment rare pour être souligné.
Ok.
Je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, messieurs, dames. Bye bye à tous.
Salut.
Et moi, je vous spoil juste, hein. Il parlait bien de David Cage tout à l'heure. Ciao.